Bonjour mesdames, messieurs. Donc, nous allons ce matin poursuivre notre investigation sur le groupe humain qui est mentionné une fois dans chaque gatha. Je vais commencer lors de la dernière leçon par vous montrer la diversité du point de vue des personnes grammaticales entre chaque énumération. Dans la première gatha, l'énumération combine un « il » et un « je » qui se résolvent en un « nous ». C'est donc une énumération à la première personne. Dans la seconde gatha, l'appel des personnages se fait à la deuxième personne grammaticale, singulier ou pluriel, selon que l'on s'adresse à une multiplicité ou non de protagonistes. Dans la troisième gatha, c'est un système mixte entre la deuxième personne et entre la troisième et la première, excusez-moi. Enfin, dans la quatrième, qui ne comporte qu'un seul chapitre, mais qui possède une longue énumération de noms propres, l'énumération se fait à la troisième personne grammaticale. Nous avions ensuite tenté de déterminer la fonction des personnages dont le nom était mentionné. Certaines désignations vont de pair avec la mention de leur nom. Nous avons vu Mantran pour Zarathustra, Kavi pour Vishtaspa et Nar pour Phrashaushtra. Dès lors, si nous voulons bien considérer ces personnages comme des sacrifiants, comme représentant dans chaque gatha le collège des sacrifiants, nous avons une indication qui ne trompe guère à cet égard. Nous ne risquons pas trop l'erreur, je pense. Je vous demanderai de bien vouloir jeter à cet égard un coup d'œil dans la première gatha sur la phrase qui conclut l'énumération, c'est-à-dire le deuxième hémistiche du deuxième vers de la strophe 9, « Nous qui avons pris place à la cérémonie des éloges ». Et nous avons déterminé lors des leçons de l'an dernier que le nom de la cérémonie sacrificielle des gathas, que les gathas représentent, était justement dasma. Dasma, la cérémonie, c'est le mot qui est utilisé ici. Bien, alors, collège des sacrifiants, nous en étions là. Comment les choses se présentent-elles? D'abord, il y a... les prêtres sont définis de trois manières distinctes, vous rappelais-je lors de la dernière leçon. Le prêtre, dans sa fonction sociale, dans sa fonction dans la société, car il est professionnel, porte le nom d'Atawan. Je restitue la forme Atawan. C'est le prêtre par fonction sociale. Lorsqu'il officie, lorsqu'il fait partie du collège des officiants, dans l'Avesta récent, il est appelé Ratu. Il est appelé Ratu. Le mot Ratu est en principe un mot, ce n'est pas un nom d'agent, c'est un nom d'action, c'est un nom abstrait. Hein. Ça désigne un moment du temps, qui en général se reproduit. Les saisons, les phases de la journée, les phases de la lune, les phases de l'année, cela porte le nom de Ratu. Pourquoi le prêtre va-t-il, pourquoi ce mot va-t-il se mettre à fonctionner comme un nom d'agent pour désigner le collège des sacrifiants dans l'Avesta récent ? Bien évidemment parce que chaque officiant a son moment hein, à l'intérieur du sacrifice. Donc il y a eu un transfert du moment sacrificiel à la personnalité de celui qui en a la charge. Il s'appelle Ratu. Alors, je vous le rappelle, il y a 8 ratus, il y a 8 prêtres officiants, dont le principal, le directeur, en quelque sorte, par fonction ponctuelle, ça peut changer d'un sacrifice à l'autre, est le Zautar, indien Hotar. Ensuite, les sacrifiants qui ont réalisé un certain nombre d'opérations et qui mènent le sacrifice à bonne fin s'appellent Saushyant, littéralement, je vous le rappelle, ceux qui vont gonfler. Et cela, je dirais, c'est la définition du prêtre dans sa fonction sacrée, celle de réussir le sacrifice. Ici, ils sont en voie de le réussir, parce qu'ils se sont pourvus d'une âme d'Aïna, eh bien, ils portent alors, dès lors le titre de Saoshiant. Qu'en est-il du point de vue de ces désignations dans l'Avesta ancien, à savoir les gata? Mais vous verrez, nous devrons faire partie, aussi utiliser dans une certaine mesure l'autre texte avestique ancien qui est l'Iasna Haptankaiti. Eh bien, la case est vide sur la fonction sociale. Ce n'est pas un texte bien long. S'agit-il d'un hasard ou non? Je ne puis pas vous répondre à cette question. C'est peut-être un hasard, mais la case est vide. Le Moratu n'a pas encore achevé sa métamorphose de nom abstrait en nom d'agent. Le Moratu est attesté, bien sûr, dans les gata, mais il a conservé strictement son sens temporel, phase, moment, phase du temps. La première fonction sacrificielle, celle du Zautar, est mentionnée, nous l'avons vu l'an dernier, nous en avons tiré parti dans l'Iasna 33, au moment où le sacrifice va entrer dans sa phase cruciale, lorsque l'on va procéder au lever du jour à la libation de Hauma et à la libation de chair, de graisse animale dans le feu sacrificiel, eh bien, à ce moment, le récitant, celui qui prononce le texte, se définit lui-même comme Zautar. Et c'est la seule attestation du mot dans les gata et dans l'Avesta ancien en général. Donc, il nous faut trouver un autre mot que Ratu. Nous l'avons. Le nom correspondant dans les gata semble être Ardra. Ardra. Curieux mot que Ardra. Donc, nous le trouvons une fois dans une liste de noms propres. C'est dans le Yasna 46-16. Peut-être peut-on, vous verrez que l'on dit à l'un des personnages mentionnés « va en compagnie des Ardra », ce qui veut dire « va t'intégrer au groupe des Ardra », au groupe des sacrifiants. Ce n'est pas une anecdote. Ça peut avoir l'air d'une anecdote, mais ce n'est pas une anecdote. Je crois que le mot Ardra m'inspire, et je tiens à vous le faire, un petit commentaire épistémologique sur le travail que nous faisons. C'est une chose étrange. Le mot Ardra était inconnu. Le sens était inconnu. Il était inidentifié du point de vue de l'étymologie. Et Bartholomée donne le point d'interrogation. Duchesne d'Imbin s'en est tiré par une pirouette en traduisant par « ardent ». C'était évidemment un calque phonétique du mot, voyant dans « ardent » la dévotion ardente envers la divinité. C'est le genre de petites choses malicieuses qui figurent dans sa traduction des gata parfois. Mais ce n'était rien d'autre. Or, il se fait que lorsque Pirard et moi avons travaillé sur le texte, un jour, nous étions à table, en Catalogne d'ailleurs, durant l'été, nous nous sommes regardés longuement parce que brutalement, on venait de voir. C'est très simple, n'est-ce pas? L'identification d'Ardra. Mais c'est aussi peut-être une histoire, je vous dis, ce n'est pas une anecdote, parce que brutalement, c'est l'œuf de Colomb. Et la racine qui se trouve à la base de ce mot, c'est rad en indien, en sanskrit, la racine rad, ce qui signifie réussir. C'est le verbe même de la réussite sacrificielle. Lorsque le hotar védique a réussi son sacrifice, un des officiants s'exclame Hota aradi dans les brahmanas. Ça veut dire le hotar a réussi son coup. Il a réussi son sacrifice. Il constate la réussite finale du sacrifice. Or, le degré zéro de cette racine, qui ici est vocalisée, nous devons restituer une laryngale, ça, et le suffixe adjectif « ro », eh bien, cela donne très exactement « ardra ». Il n'y a pas de justification phonétique supplémentaire qui doivent être faites. Le mot s'explique parfaitement de cette façon-là. Donc, on peut voir ici une désignation donc, du sacrifiant, certainement. Donc là, le mot « ardra » tient ici la place du « ratou » récent, et l'abstraction qui correspond à ce caractère d'arriver à la réussite sacrificielle, successful, dirait-on en anglais, eh bien, nous le trouvons aussi, c'est le mot rada, c'est l'abstrait correspondant, c'est la réussite sacrificielle, qui est attestée dans quelques passages gathiques, et effectivement, par exemple, dans l'énumération des noms propres de Yasna 28.7, vous trouverez le mot rada, c'est le dernier mot de la strophe. Bien. Alors, le Yasna 51-20 a parfois des comportements abnormes. Il y a parfois des... Il semble varier sur certaines choses. Le Yasna 51... Mais malheureusement, 22 strophes, ce n'est pas beaucoup pour se fier à sa valeur statistique. Ardra n'y est pas attesté, mais lui conclut dans la strophe... dans la strophe 51-20, c'est la strophe qui conclut l'énumération des noms propres, il semble se référer au personnage mentionné par un terme que les sanskritistes connaissent bien, c'est le mot, c'est yasmna, ce sont les yasmna, donc les, ce qui correspond au yajamana. Au Yajamana du Veda, donc les officiants, mais les officiants commanditaires. Ici, Yasmna, c'est la désignation qui est donnée au groupe humain du Yasna 51-20. Alors, pour la troisième catégorie, Saushyant, inchangé. Nous avons donc trois situations possibles, une case vide, une divergence, je vais dire, de jargon liturgique, et la même désignation, une similitude, une identité parfaite dans le dernier cas. Voilà qui sont les hommes à qui nous avons affaire. Comment se définit leur fonction ? Ils ne sont pas définis comme prêtres dans leur fonction sociale. Ils sont définis comme membres d'un collège de sacrifiants par le mot ardra ou par le mot yasmna. Et lorsqu'ils arrivent au but de leur acte sacrificiel, ils sont des saushyant. Des gens qui ont atteint le gonflement de la lumière ou qui l'ont intégré. Autre chose que je veux ajouter à cette désignation, c'est que le lien qui unit ces ardras, le lien qui unit les participants d'un collège sacrificiel, eh bien, il est défini par le mot « urvata ». Urvata que l'on rencontre trois fois dans les énumérations de noms propres, Yasna 46-14, 51-11 et 14. Ce mot urvata, qui définit le lien qui est tissé entre les membres du collège sacrificiel, et donc si vous voulez, on pourrait traduire, c'est une traduction tentante, de traduire urvata par collègue, hein, collègue. Ces hommes, ces trois hommes permanents, hein, Zarathustra, Vishtaspa et Vrashaustra, sont Urvata. Ils sont liés par quelque chose qui est probablement un Urvata. Le terme est attesté aussi. Bientôt, nous allons devoir nous débattre avec lui. Ce ne sera pas facile, d'ailleurs. Et qui représente sans doute le sanskrit Vrata. Il y a entre eux un Vrata, un vœu, un serment, une alliance, quelque chose comme ça. Mais à l'intérieur de la collégialité sacrificielle. Bien, alors, j'en viens. Je ne vais pas vous donner, parce que nous avons mieux à faire et nous avons déjà parlé de ça d'autres années, les huit fonctions internes au collège des sacrifiants dans l'Avesta récent. Ces noms-là ne sont jamais attestés de toute manière dans les gathas. Quelles sont les fonctions sacrificielles dans les gathas ? Oui, on nous mentionne quatre hommes, parfois plus. Combien y a-t-il de sacrifiants ? Il faut compter le jeu aussi, hein, puisque ces quatre hommes ne parlent pas quand on mentionne leur nom. Il y a un jeu, nécessairement, hein, qui parle. Donc, il y a un autre personnage dont, d'ailleurs, nous ignorons le nom de fonction. Zautar est attesté. Zautar est attesté, je viens de vous le rappeler. Alors, quels sont-ils ? Il y a deux ans, peut-être, le regretté Xavier Tremblay avait attiré mon attention sur un texte avestique récent, le Yasht 3.2, qui se présente comme une recommandation d'Ahura Mazda à Zarathoustra, et il lui conseille, il l'invite, il le presse, à assumer un certain nombre de fonctions sacrificielles. Toutes ces fonctions sacrificielles, sauf une, sont représentées par des noms, sont exprimées par des noms d'agents en tar. Et il y en a sept. Mais une liste parallèle, celle du Yasna 14.1, en ajoute une huitième. C'est intéressant. Huit types de récitants, alors que les sacrifiants de la Vesta récente sont eux aussi huit. Xavier Tremblay nourrissait très clairement le soupçon qu'il s'agissait peut-être de la désignation des membres du collège sacrificiel dans la Vesta ancienne en général et dans les Gathas en particulier. Je ne pense pas que ce soit tout à fait exact, mais il y a quelque chose d'approchant. Je crois qu'il y a effectivement une analogie, une réminiscence de quelque chose dans cette liste de l'Avesta récent. Alors, je crois que vous voyez la liste colorée de ces sacrifiants dont Zarathoustra doit assumer à lui seul le rôle. Tous sont, sauf le Zautar, tous sont des spécialistes d'un certain type de parole. En premier lieu, le Stautar, le Stautar, c'est celui qui va prononcer le texte du type Stut. Stut, c'est-à-dire l'éloge, l'élonge. Rappelez-vous le Yasna 28.9, la cérémonie des éloges, d'Asemis Stutam. Donc, le louangeur. Et effectivement, le Yasna Haptankaiti, 41.5, le Yasna, ceux qui parlent dans le Yasna Haptankaiti, qui disent nous, le Yasna Haptankaiti, contrairement au Gata, est un texte uniformément en nous. On n'a pas à se poser la question dans le Yasna Haptankaiti des variations de personnes grammaticales. C'est un nous permanent. Eh bien, ce nous du Yasna Haptankaiti, se définit comme Stautar. Nous sommes l'esté Stautar, donc tes louangeurs. Deuxième nom, celui du Zautar. Ici, c'est une manipulation, ce n'est plus une prise de parole. Le Zautar est celui qui fait les puisées de liquide dont on fait les libations. C'est une autre fonction, mais c'est celle du directeur du sacrifice, comme je vous le disais, le Zbatar. Le Zbatar est celui qui fait... Je pense la Zouti dans les Gathas, la Zouti en Avesta récent peut-être Zavana, c'est-à-dire celui qui fait l'invitation sacrificielle lancée aux dieux. C'est donc une fonction peut-être initiale dans la prise de parole. La quatrième fonction, Mantran, c'est le titre même de Zarathoustra et c'est le seul nom qui ne soit pas un nom d'agent en tar. Or, dans le Yasna Haptankaiti, en coordination directe avec Stautar, les sacrifiants, nous les sacrifiants du Yasna Haptankaiti, ils se disent aussi Stautar, mais aussi Mantran, en coordination. Le Yashtar est celui qui prononce le texte Yasna, le texte en Yazamaïdé, le texte sacrificiel, ceux qui récitent le Yasna. L'Afritar prononce l'Afriti, c'est-à-dire la propitiation, et l'Aiwidjartar, le nom est mentionné dans l'Yasna Haptankaiti pour les sacrifiants, mais là, non plus à la fin du Yasna Haptankaiti, comme le Yasna 41.5, au début, au contraire, à l'ouverture même, mais vous allez comprendre pourquoi, dans la toute première phrase du Yasna Haptankaiti, c'est-à-dire 35.2, eh bien, l'Aibidjartar sont ceux qui prononcent le Gar, ou la, c'est un nom féminin, Gar, ce qui veut dire la bienvenue, le chant de bienvenue, la raison pour laquelle, bien sûr, cette prise de parole est initiale dans le Yasna Attagaiti. Voilà donc les sept fonctions de récitation que mentionne le Yash de 3.2, qui ne sont pas fondamentalement des récitations qui sont représentées dans les gathas, par exemple le Sbatar, je ne sais pas, le Yashtar non plus. Hein, mais il y a visiblement, on s'approche d'une certaine réalité. Nous ne pouvons pas vraiment dire, voilà, nous tenons là le nom des appellations fonctionnelles du collège sacrificiel gathique. Il y en a sept, il en faudrait une huitième. Le Yasna 14.1 donne le Framartar, Framaretar, celui qui prononce la Framereiti, c'est-à-dire la récitation murmurée, la récitation à voix basse, la récitation murmurée, qui a lieu là, dans le sacrifice. Hein. Il y a différents types de... Il y a des niveaux de récitation, voix haute, voix solennelle, voix murmurée, etc. Nous savons chanter aussi. Hein. Tout texte peut recevoir un certain type de prononciation de ce type. Bien. Alors, je vous invite peut-être à regarder dans l'énumération des noms propres, c'est intéressant, pour voir exactement jusqu'où va l'analogie, quelles sont aussi ses limites. Je vous invite à regarder le Yasna 49-12. Le Yasna 49-12. Le Yasna 49-12 est une strophe que nous avons commentée pour les personnes grammaticales, parce que, visiblement, on y oppose un Zarathustra de troisième personne à un récitant qui se présente à la première. Regardez la traduction. « Quelle est ta faveur pour Zarathustra qui t'invite ? Quelle est ta faveur pour moi qui veux vous propitier par des louanges au Ahura Mazda ?» Bon, alors, regardez les mots. « Pas Zarathustra, nous savons qu'il est par ailleurs mantran. » Sa fonction est d'être mantran. Mais ici, l'action de parole que l'on lui attribue, c'est celle qui correspond à Sbatar dans le Yash de 3.2. Un Sbatar, c'est celui qui fait dont l'action définie par le verbe Sba, lancer l'invitation au Dieu. Ensuite, la fonction même du personnage qui dit je n'est pas définie, mais l'action qu'il s'attribue, c'est Frina, et je veux vous propitier. Hein, quelqu'un prononce, il se présente donc comme prononçant une afriti, c'est-à-dire comme un afritar, mais aussi au moyen des éloges. Il est afritar, mais en même temps stautar. Voilà. Oui, nous avons dans ce seul texte, n'est-ce pas, allusion à quatre fonctions définies dans le Yash 3.2, ce qui montre que ce Yash 3.2 n'est pas une fantaisie. Il a recueilli une véritable tradition ancienne. Mais vous voyez aussi la limite de cette tradition du Yash de 3.2. Ces fonctions sont cumulatives. Ces fonctions sont cumulatives. C'est-à-dire que de cette liste, nous ne pouvons pas conclure. Nous pouvons conclure très certainement une polyphonie gathique, une polyphonie. Des officiants différents se chargeant de différents types de récitations. Le jeu est variable. Ce n'est jamais la même personne. Pas toujours la même personne, plutôt. Mais d'autre part, elle peut être cumulative. Hein. La même personne peut se charger d'un, deux, ou voire trois genres. Je pense que c'est la conclusion que nous pouvons tirer de ceci. Alors, une autre conclusion que je voudrais aussi, mais je ne puis pas mener cette réflexion très loin par manque de matériel, c'est qu'il faut peut-être, comme dans le rituel védique, distinguer l'ordre du dire de l'ordre du faire. Nous sommes dans l'ordre du dire avec le Yash de 3.2. Et l'exception du Zautar s'explique peut-être du fait qu'il est le directeur du sacrifice. Donc, qu'il vaut dans les deux ordres. Il dirige à la fois les récitations et les manipulations. Hein? Peut-être est-ce là. Alors, y a-t-il indication de prêtre manipulant ? Il faut mentionner une petite chose. Il faut mentionner une chose. Nous allons d'ailleurs bientôt venir nous allons devoir bientôt y prêter une certaine attention. Prêtre manipulant, peut-être faut faire allusion à ce curieux personnage qui n'intervient que deux fois dans les gathas, mais une fois avec une certaine insistance, et qui s'appelle Gaushtashan. Gaushtashan. Littéralement, le menuisier de la vache, celui qui a taillé la vache comme un menuisier taille le bois. Dans l'Avesta récent, Gaushtashan est une divinité, c'est une sorte de génie tutélaire de la vache. Dans l'Avesta ancien, ça n'est pas sûr. Peut-être bien est-ce aussi un génie tutélaire de la vache, peut-être aussi appartient-il à l'univers divin. Mais cette divinité-là est peut-être l'hypostase d'une fonction liturgique. Fonction liturgique qui serait quoi ? Tailler la vache, vous savez, il n'y a pas beaucoup de moyens de comprendre l'expression. C'est celui, bien sûr, qui l'a tué, qui l'a immolé et qui l'a débité. C'est une possibilité que nous devons envisager pour ce prêtre. Mais il y a aussi autre chose que je voudrais vous faire remarquer et qui se trouve dans deux strophes contiguës, le Yasna 45-11 et le Yasna 46-1. C'est très peu de choses, mais il est très intéressant de le noter. Dernière strophe, donc, du troisième chapitre de la deuxième gatha et première strophe du dernier chapitre. Ces strophes sont donc contiguës. La première, le Yasna 45-11, mentionne le Saushyant Dunkpati. Donc Saushyant, l'appellation sacrée du prêtre, définition du prêtre dans sa fonction sacrée, et il est défini comme maître de maison. Maître de maison. Alors, imaginez-vous l'époque où les commentateurs des gathas, c'était celle de Lommel dans les années 30, qui réagit avec d'une façon assez primaire mais très significative à ce passage-ci. Le Saushyant est le sauveur futur, celui qui viendra accomplir les œuvres de la fin des temps. Dans cette conception, comment comprendre une telle appellation ? Lommel dit, mais comment est-ce possible ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Dit-il. Pourquoi ? Dit-il, c'est en allemand, je ne peux pas vous le citer par cœur. Pourquoi, dit-il, le futur sauveur est-il dit maître de maison ? Il conclut, là je peux vous le citer, c'est facile, c'était très frappant. Ich weiß nicht. Je ne sais pas, évidemment. Nous nous situons évidemment dans un autre contexte. Alors, avant de vous livrer un soupçon, venons-en à 46.1, à la strophe suivante, 46.1, où l'on nous dit que le personnage qui parle, qui ne se nomme pas ouvertement, n'est pas accepté, ou bien il n'est pas reçu du point de vue de l'hospitalité, ou bien il n'est pas agréé comme sacrifiant par un commanditaire quelque, ou par un autre membre du collège sacerdotal, parce que celui-là est mauvais, et les personnages qui ne reconnaissent pas la dignité sacrificielle du personnage qui parle, du récitant, sont les sastars. Les sastars. Les sastars. Donc, d'une part, Dunkpati, maître de maison, et sastar. Cela serait tout à fait énigmatique si nous n'avions une petite piste. Petite piste, c'est que dans le collège sacrificiel des 8 officiants brahmaniques, il y a le Gurhapati, le maître de maison, le maître de maison. Et il y a le préverbe pra, le prashastar. Le prashastar. Ce sont deux fonctions sacrificielles quand même étrangement synonymes avec celles que nous avons successivement dans nos deux strophes. Hein. Dunkpati, maître de maison Gurhapati. Et d'autre part, Lesastar, qui est indien Prashastar. Ce qui donne des ordres, c'est celui qui donne des ordres aux autres membres du collège sacrificiel. Maintenant, pourquoi ces sastars ici sont-ils togvant, sont-ils trompeurs? Ça, c'est un autre problème. C'est le problème des adversaires, et nous devons l'affronter, ce problème-là. Mais c'est prématuré. La perspective est toujours, tout de même, un tantinet biaisé par le fait que le problème des adversaires est un réel problème dans la structure de nos textes vieil avestiques. Alors voilà, je voulais dire où nous y sommes. Je voudrais maintenant aussi vous faire remarquer que peut-on dire du récitant. Eh bien, vous savez que j'avais voulu de manière peut-être un peu violente, mais c'était la réaction. Et puis j'étais jeune, et puis j'étais de mauvaise humeur. Quand j'entendais toujours le même discours à propos des gâtas, bien, je veux mettre ici, rétablir un peu de sérénité dans les débats. Je vous propose la solution suivante. La question du récitant dans les gâtas, eh bien, la récitation, comme je vous disais, elle est polyphonique, antiphonaire, comme on dit d'habitude. Elle est polyphonique parce que ce n'est pas la même personne qui parle tout le temps. Est-ce que Zarathoustra parle? Ce que j'avais nié il y a 20 ans. Est-ce qu'il parle ? Ben, je vous propose aussi ici d'examiner trois strophes. Il y a deux strophes sur les 16 où le nom de Zarathoustra est mentionné, où il est évident qu'il parle. Il dit « je ». Il n'est pas question de faire des acrobaties pour le nier. Ces deux strophes, je vous le répète, sur 16, c'est le Yasna 43, 8. Je dis d'abord, je commence par dire que je suis Zarathoustra. C'est clair tout de même. C'est un vers. Bon, la mise en contexte est toujours plus difficile, mais prenons-la telle qu'elle est. On a clairement un « je dis » et le nom de Zarathoustra au nominatif. Je dis d'abord que je suis Zarathoustra. Le Yasna 46, 19, syntaxe difficile, sémantique difficile aussi. Mais il y a très clairement un pronom de la première personne au datif, ordonné avec le datif de la personne de Zarathoustra, celui qui fera telle ou telle chose pour moi, Zarathoustra. Deuxième discours en jeu, attribuable à Zarathoustra. Alors, plus intéressant, beaucoup plus intéressant, c'est le Yasna 56. Le Yasna 56. C'est un texte, c'est bien intéressant, le Yasna, que ce soit la sixième strophe. C'est ce qu'on appelle en rhétorique l'omphalos du texte. Le chapitre 50 comporte 11 strophes. La strophe centrale, c'est la sixième. Dans l'Yasna 28, tout premier chapitre, 11 strophes aussi. Le nom de Zarathoustra, il apparaît dans la sixième, à l'omphalos. Il apparaît à l'omphalos aussi dans le Yasna 56. Or, nous avons la chance ici, n'est-ce pas, que ce texte soit parfaitement clair. Et que nous dit-il? Eh bien, il nous dit ceci. Eh bien, le collègue, Urvato, c'est le mot de nous, que nous commentions tantôt, le collègue mantran, c'est-à-dire notre collègue qui se charge de la récitation des mantras, qui prend la parole au Mazda, selon l'agencement, et Zarathoustra. Alors, que le créateur, le donateur, je ne sais pas, de l'aptitude de la langue, lui enseigne, Sahit, avec bonne pensée, à être l'aurige, le cocher de mon parcours. Zarathoustra apparaît à la troisième personne, on dit qu'il va prendre la parole, puis quelqu'un parle à la première. Bien, ça ressemble tout de même furieusement, me semble-t-il, à un passage de parole, n'est-ce pas ? Quelqu'un parle et donne la parole à quelqu'un d'autre. Celui qui dit « je » ici passe la parole à Zarathoustra. Il lui souhaite d'être un bon cocher du discours. Et regardez le verbe de la strophe suivante, à la troisième personne, « yaujar »,« je veux atteler »,« je veux atteler », le verbe même de l'orige. « Je veux atteler les rapides chevaux de la prière »,« Je veux atteler les rapides chevaux de la prière. Or, dans la tradition mazdéenne d'époque moyen-perse, ce passage de parole est un acte rituel très courant, d'acte rituel important qui porte un nom au moyen-perse, c'est le badj. Le badj, c'est lorsqu'un sacrifiant qui a parlé passe la parole à un autre sacrifiant. Il semble bien que, sans apporter de nom précis, c'est ce qui se passe ici. Hein. Zarathoustra prend la parole, on lui donne la parole, c'est lui qui va parler pour réciter les cinq dernières strophes de la Gatha. N'est-ce pas, de ceci. Donc voilà un passage, je crois, qui peut nous décomplexer. Hein. Il y a trois strophes à la première personne, du nom de Zarathoustra, évidente, et il y a un relais, hein, un relais de parole. Quelque part aussi dans les Gathas, le Yasht 56. Alors, la question de l'auteur, qui a écrit le texte ? Qui a écrit, excusez-moi, là je dis une bêtise, mais qu'il est très difficile d'éviter pour de la littérature orale, n'est-ce pas ? Qui a composé le texte ? Qui est le poète ? Ça, je crois que dans le cadre des Gathas, c'est une question intraitable. C'est une question intraitable parce qu'il n'y a pas dans l'Avesta de théorie littéraire. Les Védas, oui, les poètes revendiquent leur travail. Ils se vantent de leur art, c'est pas ? Ils font leur publicité, en quelque sorte, se présentent comme les meilleurs. Hein ? Il y a une revendication du talent poétique dans les Védas. Il n'y a jamais cela dans l'Avesta. Le travail du poète n'est jamais quelque chose qui entre en ligne de compte. Les toutes petites nuances que l'on pourrait trouver à cet égard se trouvent justement dans l'Yasna 28. Il est possible que l'Yasna 28, que certains avaient d'ailleurs considéré pour des raisons approchantes comme un texte très primitif, le Yasna 28 fait quelques allusions peut-être au métier poétique. Dans la deuxième strophe, où le récitant dit « Je vais vous chanter des chants », c'est objet interne, hein, « Je vais vous chanter des chants comme il n'y a pas de précédent », ce qui semble vouloir dire les meilleurs qui aient jamais existé. Mais ce n'est peut-être pas ça qui est dit, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que la première strophe oppose un « au début », pas « urvim », et que la deuxième y oppose, dans cette expression, un non-début. Je ne comprends pas bien ce qu'on veut peut-être pouvoir dire pour ça. Il faudrait comprendre, je vous dis, c'est un mot piège en avestique que le mot premier. Hein. Donc, on demande le premier fait de quelque chose, et puis on dit qu'on chante d'une manière qui n'a pas encore été... qui n'a pas commencé, en quelque sorte. Hein. Il est très difficile de voir à quoi on fait allusion, mais peut-être que la strophe ne concerne pas le caractère incomparable des chants. Ce n'est pas ça. Et puis, dans l'avant-dernière strophe, la dixième du même chapitre, il est question de chants les sravars, des hymnes, qui ont toutes sortes de qualités. Ces qualités, c'est quaraitia, mais quaraitia, je ne l'écris même pas, parce que c'est un non-liquet. C'est-à-dire, cela signifie que ces chants ont un but, ont le bon objectif. Ils ont un bon objectif. Mais quel est l'objectif ? L'objectif, c'est les dieux. Hein. On demande aux dieux de se présenter comme des objectifs sacrificiels. Eh bien, ces chants ont pris en considération la nature de l'objectif. Ce n'est pas le talent poétique qui est en cause. Hein. Et lorsqu'on dit qu'ils sont vantia à côté, c'est-à-dire charmeurs, c'est référence à un style poétique aussi, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas qu'ils exercent un charme, ou sinon par nature, n'est-ce pas ? Mais c'est qu'ils correspondent à ce que nous appelons un charme. Et c'est aussi un genre rhétorique. Ils appartiennent à ce genre, au genre charme, vanta. Donc, il n'y a pas véritablement de magnification du talent poétique dans l'Avesta. Donc, nous manquons ici aussi vraiment de matériel de référence pour juger de la question de la personnalité de l'auteur. Je crois que le seul petit indice que l'on peut mentionner, je l'ai fait la fois dernière, C'est le titre de kavi accordé à Bhishtaspa, car tout de même le kavi dans le cadre védique, c'est un poète, c'est un poète. Mais nulle part on ne dit que Bhishtaspa pourrait être l'auteur des textes. Il nous reste une dernière chose à envisager avec les énumérations de noms propres. Souvenez-vous, l'an dernier, nous avions établi la variabilité de la place de l'énumération des noms propres dans chaque gatha. C'est une réflexion qui ne peut naturellement être menée que pour les trois premières qui ont plusieurs chapitres. Dans la première gatha, l'énumération des noms propres est initiale. Elle survient tout au début du texte, dans le premier chapitre. Dans la deuxième gatha, elle est finale. C'est à la fin du texte. Dans la troisième gatha, elle est centrale. Tous les cas de figure sont représentés. Bien, c'est une chose de savoir pourquoi, à quoi correspond cette variabilité. Mais nous ne pouvons déterminer cela, et encore, que si d'abord nous tentions de déterminer à quoi, à quel acte liturgique l'énumération des noms propres est liée dans chaque gatha. Bien, je vous propose de réexaminer les trois textes. Réexaminer les trois textes, cette fois-ci, non plus dans la perspective des personnes grammaticales, mais dans la perspective de leur motivation. Dans la gatha Ahuna Vaiti, les choses sont claires parce que le texte le dit lui-même. Vous disiez, il se présente comme un yana. C'est un genre rhétorique qui n'est pas d'ailleurs représenté dans le Yasht 3, le yana. C'est une demande. Le verbe demander qui correspond est le verbe ya, présent yasa. Yasa. Yasa, première personne, je demande. Donc la demande, yana et le yasa. Et effectivement, on demande au Dieu un certain nombre de bienfaits. Hein. Certains nombres de bienfaits sont demandés au Dieu. Vous remarquerez la lourde répétition des verbes à l'impératif, hein, qui scandent littéralement toute l'énumération des noms propres, et où chaque entité, pas seulement Ahura Mazda, est soigneusement interpellée. C'est véritablement le panthéon des entités des gathas, c'est dans ce chapitre qu'il prend véritablement son allure de véritable panthéon polythéiste. Chaque entité devient une personnalité clairement distincte qui a droit à son impératif. Hein. Donc cette succession est véritablement insistante, presque obsédante dans la gatha. Or, en regardant bien les choses, on demande deux choses. Particulièrement pour ce que nous pouvons comprendre. C'est une aide, avoir une sorte d'aide. Attention, c'est l'aide qui s'exprime par les dérivés de la racine rap. Rap, c'est aider, mais avec une nuance qui tend véritablement vers le mot secours. Dans une certaine mesure, l'énumération des noms propres du Yasna 28 apparaît comme une demande de secours. C'est un appel à l'aide, c'est un appel au secours, littéralement. Les dérivés de la racine rap sont beaucoup plus fréquents. C'est ici qu'on les trouve pour la plupart du temps. Il y a quelques mentions, quelques attestations aussi ailleurs, mais ici, littéralement, ravdra dans la première et la deuxième strophe. Dans la deuxième, rapant, c'est participe présent de la racine. Et puis, dans la strophe 6, l'énumération des noms propres, là, vous trouvez la forme intégrée à l'énumération, rafno. Donne-nous une aide puissante à Zarathustra et à nous. Donc, c'est l'objet de la demande, c'est un secours, le rafna. Alors, il y a une deuxième chose, un mot plus énigmatique, parce qu'il appartient à la sphère du vocabulaire des offrandes. Ish. attesté trois fois dans les Gathas seulement, moribond dans le Vesta récent. Que voulez-vous faire avec ça? Heureusement, nous avons le mot védique, ish. Nous ne savons pas très bien ce que c'est. C'est une force, une puissance que l'on demande. J'ai traduit par vigueur, je crois, la plupart du temps, mais vous savez bien, l'essentiel, c'est de savoir ce qu'il y a derrière ça. Hein. On peut toujours un petit peu sautiller d'un synonyme à l'autre quand on est le domaine du champ sémantique de la puissance. Mais il faudrait. Alors ici, on a quand même peut-être une idée. Véritablement, c'est aussi le passage témoin, ce Yasna 28. Et nous allons voir qu'il va trouver bientôt un écho dans l'Yasna 29, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors, Ish, c'est la chose que l'on demande avec ce secours, n'est-ce pas? Et il semble que ce soit la force qui permet de contrer, nous avons le mot ensuite dans la Gata Unavaiti, dans la même strophe, dans la strophe 6, n'est-ce pas, l'aide puissante, et puis ce qui permet de surmonter les hostilités de l'hostile. Le dvaishor, l'hostilité. L'ish, semble-t-il, est une force qui permet de contrer l'hostilité, comme nous le verrons. Or, l'ish est lié à la puissance des saushyant, la puissance de gonflement, ça va. Mais elle semble préalable. Il faut avoir l'ish pour accéder au sava. C'est dans l'Yasna 28 aussi que nous en avons l'idée, car on dit au Dieu, vous êtes ceux qui hâtez le plus, qui hâtez, ce qui veut probablement dire, vous hâtez, vous faites en sorte que ça vienne plus vite, hein, que cette puissance-là vienne plus vite. Vous êtes ceux qui hâtez le plus la puissance Ish, et la puissance Ish est coordonnée non pas au Sava, mais à la capacité d'atteindre le Sava. On a donc l'impression que la puissance Ish est la puissance et la puissance préalable à la puissance décisive qu'est le Sava. Donc voilà une demande, un appel au secours. N'oublions jamais quelque chose. Hein. Quand on prononce le premier mot, le Yasa, hein, le Yasa, je demande, du Yasna 28.1, il est minuit. Il faut remettre la liturgie dans son heurtou, hein, dans son articulation, l'articulation des moments sacrificiels. Pas, on est au milieu de la nuit. Bon, alors, c'est l'appel au secours, hein, à ce moment. Mais nous verrons comment nous pouvons comprendre cela ensuite. Enfin, alors, nous allons... je passe à la troisième gatha, je reprends le même ordre qui n'est pas immédiat. On passera à la troisième gatha, non pas parce qu'elle est plus courte, mais parce qu'elle appartient au même genre. Le mot yana n'est pas mentionné, mais celui qui parle à la première personne dit « Yasa, je demande ». Or, ici, dans ce texte beaucoup plus court, il est clair que le mot clé, l'objet de la demande par excellence, c'est un mot qui n'existe pas en indien, mais on connaît bien son étymologie, surtout par le grec, c'est le mot « sar », c'est un nom racine, un mot très bref, et c'est l'union intime avec quelqu'un, c'est l'union intime. On demande le sar, l'union intime avec l'agencement, avec achat et avec la bonne pensée. Voilà ce que nous demandons. Mais ne l'oublions pas, ici, l'énumération des noms propres, elle est centrale. Ce n'est pas le début du rite. Pas le rite est déjà bien avancé. On va arriver immédiatement à l'acte sacrificiel, aux deux offrandes, offrande de soma, offrande animale, c'est autre chose. Ce sont des sacrifiants bien installés dans leur opération qui parlent ici. Et ils demandent à bénéficier de cette union intime avec les deux principales entités du panthéon des Gathas, l'agencement du monde et la bonne pensée. De même que Rafna l'est dans le Yasna 28, le mot sar est un mot qui appartient presque exclusivement à ce passage-ci. C'est ici que la grande majorité de ces attestations se situe, dans le Yasna 49, strophes 3, 8 et 9. 8 et 9 faisant partie de l'énumération des noms propres. Alors ici, la Gata Ushtavaiti, la deuxième, elle est plus complexe. Il n'est pas question de demander quelque chose. Ce n'est pas une demande. On s'adresse au sacrifiant à la deuxième personne, à la deuxième personne. Que va-t-on leur demander ? Puisque c'est à eux qu'on parle, on n'est pas en situation de faire une demande aux dieux. Les dieux sont présents parce qu'on les prend en témoin, bien sûr. Mais, en quelque sorte, on les laisse tranquilles. Hein. Ce n'est pas à eux à intervenir. Mais les sacrifiants ont des devoirs. Et effectivement, au lieu de formuler une demande aux dieux, l'on pose des exigences pour les sacrifiants. Ici aussi, il y a un mot dominant. Il y a un mot dominant. Ce sont, ou plutôt une racine dominante, parce qu'elle sera attestée par des verbes ou bien par deux substantifs. Mais ce sont des dérivés de la racine vici. Faire la différence, distinguer. Vous devez distinguer. Vous devez être capable de distinguer. Voilà l'exigence posée aux hommes à qui l'on parle. Hein, que ce soit donc Zarathoustra, Vishtaspa. Ici, la liste est longue car il y a des groupes pluriels, hein, les Spitama Haichataspa, les Spitama fils de Haichataspa, et puis il y a aussi au pluriel les Jamaspar Vogva. Donc il y a du monde dans l'énumération des noms propres, et on pose cette exigence de distinguer. Or, ce que l'on distingue, nous pouvons déterminer, mais comme toujours, il est difficile d'approcher de la réalité concrète précise. Mais voilà comment le problème se pose. Là, ici aussi, nous allons y arriver bientôt dans les leçons qui suivent. Nous pourrons peut-être apporter d'autres arguments et voir quelle est cette sorte de philosophie de l'acte de distinguer, de faire la différence qui imprègne aussi chaque gatha une fois. Mais ici, il s'agit de distinguer des personnages qui sont data de personnages qui ne sont pas data, qui sont adata, avec alpha privatif, data. Adata, non data. Nous connaissons bien le contexte lexical. Hein. Dans l'Avesta récent, le dérivé est dérivationnellement un peu différent. Il faut daitya. Daitya. C'est ceux qui agissent d'une manière appropriée à une situation donnée. C'est l'adéquation à une disposition. Quelqu'un qui fait ce qu'il faut faire. Hein. C'est cela, un data. Or, l'idée de disposition, hein, de réglementation, de faire ce qu'il faut faire, porte, est attestée aussi, surtout dans l'avestique, avec ce sens-là en vieille avestique, s'appelle data, data. Donc, le data, c'est celui qui agit conformément au data. Attention, la dentale ici n'est plus aspirée. Nous avons donc la configuration sémantique est très claire. Le mot apparaît une fois, mais on ne le met pas en. Il n'est pas contrebalancé par son négatif, mais ce sont des qualités qui sont complémentaires. Il faut distinguer ceux qui sont heureux de toi de ceux qui ne le sont pas. Hein. Anne, heureux de toi. Là, c'est un dérivé d'un mot que nous connaissons bien, le mot ratu, mais. En avestique récent, le terme est aussi dérivationnellement distinct, c'est ratuia. Donc, c'est celui qui agit conformément au ratu. C'est-à-dire, l'adéquation ici n'est plus établie avec une disposition particulière, mais avec un temps rituel particulier, avec un temps particulier. C'est celui qui se conforme au temps rituel, celui qui fait non pas ce qu'il faut ici, mais celui qui agit quand il faut, quand il faut. Voilà la distinction qu'on demande de faire aux sacrifiants aux sacrifiants qui sont interpellés dans la deuxième gatha. Alors les autres, les gatha monohatiques, comme je les appelle, c'est-à-dire qui n'ont qu'une seule haïti, c'est autre chose. C'est peut-être autre chose. Il y a dans les deux dernières gathas, qui sont très brèves, puisqu'elles n'ont qu'un chapitre, 22 strophes, pour le Yasna 51. C'est long pour une Haïti, mais ce n'est qu'une Haïti. Le Yasna 53, 9 strophes, longue et complexe, mais ce n'est que 9 strophes, 10 avec peut-être la Riyamanichéa qui suit. Eh bien, il y a de la dramaturgie dans ces gathas en un seul chapitre. Il y a une dramaturgie. Nous connaissons bien le Yasna 53, nous l'avons commenté l'an dernier. C'est un texte un peu surprenant et bon, qui on a souvent, parfois, fut un temps, on a trouvé scandaleux que Humbard d'une part et puis moi-même, nous la comprenions d'une manière que l'on a qualifiée de pornographique. Mais oui, pourquoi pas, elle n'est pas pornographique, bien sûr. Mais enfin, tout de même, elle raconte un mariage et un accouplement sexuel qui est probablement mimé durant le rite, n'est-ce pas, et qui est censé être le mariage et l'union sexuelle de l'aurore avec son père le soleil. Avec son père le soleil. Vieux mythe indo-iranien que l'on trouve aussi dans le Rig Veda, n'est-ce pas. Et c'est un mime, c'est une liturgie, c'est un drame liturgique, n'est-ce pas, qui est représenté dans cette gyata. Il est très possible aussi, nous sommes en train, je pense, d'essayer de l'établir au séminaire pour le Yasna 51. Je vous fais part de nos réflexions. Il semble que l'énumération des sacrifiants soit une sorte d'évocation de l'apparition de la Daïna des défunts, lors de la troisième aurore qui suit la mort. Il semble que ce soit la mise en dramaturgie de l'apparition de l'âme féminine au défunt après la déréliction de la mort. Il est possible donc que nous ayons affaire à d'autres, à des types liturgiques un peu distincts. Et c'est pour ça ici que je voudrais vous faire remarquer, je n'ai envisagé ici que 4 noms. Il y en a 2 autres que j'aurais pu commenter. C'est le nom de Maïdio Imanka, qui apparaît dans l'Yasna 51, qui est un Spitama, donc quelqu'un de la famille de Zarathoustra. Mais ce nom-là signifie, c'est un Kalendername, comme disent les Allemands, en onomastique, c'est-à-dire un nom de calendrier, si vous voulez, pour traduire l'expression, ça désigne quelqu'un qui est né lors de la demi-lune. Ça réfère au ratou de sa naissance, parce que la demi-lune, c'est un ratou mensuel. Alors, moi, je ne suis pas du tout sûr, vous savez, que nous avons un nom propre ici. Et peut-être que le rite en question exige que l'on rassemble les membres d'un groupe social qui ont en commun d'être nés à ce moment-là du mois. C'est une possibilité que nous devons envisager. Quant au Yasna 53, où nécessairement, puisqu'il s'agit d'un mariage et d'une union sexuelle, on doit faire intervenir un personnage féminin et lui donner un statut familial incestueux, on a le nom, semble-t-il, de Puru plus Chista. Puru Chista, on nous dit qu'elle est la plus jeune fille de Zarathoustra, personnage féminin. Oui, mais Chit, n'est-ce pas? Chit, la racine de l'apparition de l'aurore. Nous l'avons commenté abondamment. Je ne suis pas non plus sûr que Puru Chista soit un nom propre. C'est celle que l'on voit apparaître, que beaucoup de personnes, Puru, voient apparaître, comme tous les hommes voient apparaître l'aurore. C'est la chose qui se remarque le plus au monde, selon les textes moyens iraniens. Verbe de l'apparition de l'aurore. Alors, c'est la plus jeune. Ça paraît très précis dans la relation familiale. Non. Yezvi, elle est jeune. La plus jeune, c'est la cadette. Oui, mais il est systématique dans le Rig Veda de dire de l'aurore qui apparaît qu'elle est Yahvi, c'est le même mot, la cadette. Pourquoi? Parce que la plus jeune aurore, c'est celle d'aujourd'hui, bien sûr. C'est celle qui se lève maintenant. C'est la dernière des aurores en date. Tout cela forme une configuration qui n'a peut-être plus rien à voir, n'est-ce pas, avec la mention des noms propres. Je vais terminer ici. Je ferai une remarque. Parce que c'est celle, mais là, c'est aussi un non-liquet. Puruchista, Maidio, Imanka ne sont peut-être pas des noms propres. C'est leur fonction dans la liturgie qui détermine une appellation qui n'est peut-être après tout que celle d'une épithète. Hein. Mais ce n'est pas clair pour les autres noms du cercle gathique. Ces noms sont-ils réels ou sont-ils des noms de rôle, comme Sovit Zarathustra par exemple? Ben, je vous dirais que je n'en sais rien et que je ne vois pas comment le savoir, n'est-ce pas? Je ne vois pas comment le savoir. Remarquez tout de même que ces noms composent, lorsqu'on les prend tous, l'homme qui a des vieux chameaux, l'homme dont les chevaux sont privés de harnais, l'homme dont les chameaux sont en belle santé, l'homme dont les chevaux sont desséchés par le soleil, brûlés par le soleil. Tout cela compose peut-être, mais je terminerai là-dessus, et ce n'est rien d'autre qu'une remarque, ce n'est pas que je crois à sa réalité ou pas, cela compose peut-être une parabole sur les difficultés d'un long voyage. Les longs voyages sur les chemins du rite, n'est-ce pas, qui terminent, concluent et ponctuent chaque gatha. Voilà, je vous remercie de votre attention.